Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Ben, vous l'avez entendu, le 98.5 qui continue d'avoir la tête dans les sondages et dans votre cœur. Visiblement, je tenais au nom de toute mon équipe, Normand Gem, Isabelle Laure, mes recherchistes, au nom de Benoît Leroux, notre technicien à la mise en onde, je voudrais sincèrement vous remercier de votre fidélité, vous dire que c'est vraiment pour vous qu'on essaye de faire les meilleures émissions possibles en cette matinée. Justement, on a beaucoup de choses à vous proposer aujourd'hui. On va parler de malbouffe. On voulait en parler il y a deux jours, puis l'actualité nous a comme un peu bousculé. Notre sujet sur l'électrosensibilité vous a tellement intéressé. Vous étiez si nombreux à vouloir en témoigner. Puis je peux vous dire que depuis deux, trois jours, là, il y a une méchante gang d'électrosensibles qui m'écrit puis qui veut vraiment qu'on revienne là-dessus. On le fera au cours des prochaines semaines. Mais donc, à cause de ça, notre sujet sur la malbouffe qu'on voulait aborder il y a quelques jours, ben on va en discuter ce matin. Et même plus largement, et c'est encore plus d'actualité parce que c'est vrai que beaucoup de monde qui m'ont dit qu'ils quasiment si vous vous cachiez pour manger de la poutine. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Imaginez, la saison du barbecue commence. Qu'est-ce qu'on va faire? On va recevoir également le comédien-animateur Patrice Lécuyer qui s'engage pour une bonne cause. Il vous dira laquelle. Peut-être nous donnera-t-il un ou deux squelettes dans son placard, lui qui a quand même entendu ceux d'à peu près tout le monde au Québec. On va voir aussi si vous vous sentez surveillé au bureau, caméra, ordinateur. Vous savez que Big Brother est quasiment partout, mais il y a pire, il y a la Chine. On verra ça tantôt. Mais il y a surtout une histoire qui nous a attirés tous ce matin parce qu'en ouvrant le Journal de Montréal, on a lu l'histoire de cette dame de la Rive-Nord de Montréal qui était dans le coma depuis un certain moment à cause d'une condition assez importante pulmonaire. Elle avait énormément de difficultés à respirer. Elle était juste plus capable de respirer comme il faut, d'expulser son CO2. Donc, son état était tellement détérioré qu'à un moment donné, les médecins ont dit « Mon Dieu, elle passera pas la nuit, cette pauvre dame. » Elle était dans le coma. Et là, semble-t-il, miraculeusement, on sait pas comment appeler ça, Suzanne Desjardins s'est réveillée alors qu'on allait, alors qu'on pensait en fait qu'il fallait la débrancher et qu'on allait arrêter les traitements. On va lui parler à l'instant parce que je trouvais que ça méritait qu'on lui pose plein de questions. Bonjour, Madame Desjardins.
Bonjour.
Dites-moi, comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va très bien, merci.
Racontez-moi votre histoire, parce que quand on lit le Journal de Montréal, on se dit, mon Dieu, mais ça n'a pas de bon sens. Évidemment, le titre est incroyable. À 30 minutes d'être débranché, c'est comme si vous vous êtes finalement réveillé contre toute attente.
C'est quelque chose, hein?
C'est incroyable! Incroyable!
Un vrai miracle.
Racontez-moi, là, vous là, avant de vous réveiller, quand on est dans le coma, ça ressemble à quoi? Avez-vous un souvenir de quelque chose? Est-ce que c'est un trou noir?
On rêve.
Oui?
Oui, moi, je sais que je rêvais. Puis c'est ça, j'ai rêvé. Puis après ça, ben ça a l'air que j'ai ouvert un œil. Puis que mon frère m'a réveillé, puis que ça m'a réveillé, là, puis tout ça. Puis grâce à mon grand frère, si on m'a réveillé, puis tout ça, c'est mon sauveur.
Parce qu'en fait, c'est comme ce que vous me dites, là, c'est vous rêviez. Ça, vous avez mémoire du fait que dans le coma, vous aviez des rêves. Est-ce que vous entendiez autour de vous?
Non.
Vous n'entendiez pas vos enfants, par exemple. Hein? Vous avez deux enfants, Macha et Carl Desjardins-Lavoie. Vos deux enfants étaient là, sont assez jeunes, sont des jeunes adultes. Vous n'entendiez pas quand ils vous parlaient ou quand votre frère? Vous n'entendiez rien?
Non. Juste quand que mon frère, il m'a pogné la jambe, puis il a parlé fort. Il m'a dit, Suzanne, c'est ton frère qui parle, réveille-toi, d'une grosse voix, là. T'sais, parce que lui, il a une voix assez importante. Fait que ça m'a saisi, puis ça m'a réveillé.
Incroyable.
C'est qu'il était là, une chance.
Sinon?
Parce que je serais morte.
Parce qu'on prévoyait commencer à vous débrancher, en fait, c'est ça? Vous avez 54 ans, en fait, la semaine prochaine, hein? Là, vous
une demi-heure après.
On allait vous débrancher, c'est ça?
Oui, oui. Fait que c'était moins une.
Oui, c'est ça. Mais en fait, ce que je comprends, puis dites-moi si c'est ça, Suzanne Desjardins, c'est que vous étiez sous respirateur parce que vos poumons n'arrivaient plus à fonctionner tout seul. C'est bien ça?
Oui, à cause que j'avais trop de CO2.
Mm-hmm.
Parce que la normale, c'est 50% de CO2. Moi, j'en avais 102%.
Oh, yeah. Vous étiez en train de vous intoxiquer avec votre propre air, en fait, c'est un peu ça.
Oui, là, j'étais comme dans un garage là, avec le
tuyau
de cadre, puis j'ai été en train d'être intoxiquée, là. C'était terrible.
Aujourd'hui, est-ce que vous avez un respirateur quand même qui vous aide aussi pour votre oxygène?
Ben, j'ai la même chose qu'avant, là. Oui, j'ai une bonbonne de oxygène à 3,5 litres. Puis c'est qu'est-ce que j'avais avant de tomber dans le coma. C'était la même quantité. Fait que c'est ça.
Mais je ne veux pas vous épuiser, Suzanne Desjardins.
Ben non, ça me fait plaisir de vous raconter ça. C'est parce que ça n'arrive pas tous les jours qu'on se réveille de même du coma, là. Puis franchement, là, c'est quelque chose.
Qu'est-ce que ça vous dit sur, justement, les soins de fin de vie ou des gens comme ça, là, qui, peut-être dans cette situation, vont dire, oh mon Dieu, si cette dame-là s'est réveillée, ça veut dire qu'on a tous cette possibilité de se réveiller, de sortir du coma.
Oui. Oui, puis d'en profiter le plus possible.
Effectivement. Mais c'est délicat parce que, d'ailleurs, dans l'article, vous dites « Mes enfants sont beaucoup trop jeunes pour
prendre une décision, là. »
Oui, pour décider de débrancher leur mère, c'est une décision épouvantable à prendre.
Oui, voyons donc.
C'est ça qui vous a réveillé, Suzanne? Le fait de dire « C'est pas vrai que... » Ils vont me débrancher. Qu'est-ce qui vous a réveillé, à part votre frère, là, qui vous a secoué, on comprend, avec sa grosse voix, qui vous a comme, il est allé vous chercher, on dirait, dans le coma, là?
C'est mon frère. C'est mon frère, je ne sais pas quoi d'autre.
Vous l'avez entendu. Vous me disiez plutôt que vous n'entendiez rien, vous étiez dans les rêves.
Non, mais lui, je l'ai attendu.
Vous l'avez entendu, c'est incroyable, wow. Là, vous êtes où? Êtes-vous encore à l'hôpital? Oui, vous êtes toujours à l'hôpital?
Oui, je suis à l'hôpital, à la chambre 35.
Et
je ne sais pas quand que je sors, c'est ça. J'attends des réponses de l'hôpital de Saint-Jérôme.
Mm-hmm.
Qui ne donne pas de réponse et... C'est du niaisage, là.
Oh, c'est vrai?
Ah oui, c'est du niaisage. Ça a fait puis le 13 avril que j'ai fait une vidéo capsule.
Oui.
Puis ils n'ont toujours pas de résultat 2 mois après. C'est parce que ça se pitch là.
Ils s'envoient la balle, ben.
Oui, puis... Tu sais, là, moi, j'ai hâte là, de m'en aller. Là, j'ai peur de retomber.
Oui, non, l'hôpital, c'est pas l'endroit où on veut être. Mais écoutez, Suzanne Desjardins, merci d'avoir pris le temps de nous parler.
Mais ça me fait plaisir.
Et puis, sincèrement, prompt rétablissement, Suzanne. Salutations à votre frère, votre sauveur, votre frère Jean, vos enfants, Macha et Carl. Puis, prompt rétablissement. On vous souhaite de pouvoir respirer à plein poumon sous peu.
Merci
à vous, Suzanne. Quelle histoire incroyable. On a justement un auditeur, Benoît, qui nous appelle parce que... Bonjour, Benoît.
Bien, bonjour, Isabelle.
Vous êtes touché par l'histoire de Suzanne parce qu'on me dit que vous avez été dans le coma pendant 40 jours.
Effectivement, c'était en 1999, mon accident. Ça fait 20 ans, le 15 avril récemment. Fait que je suis rendu. J'avais 20 ans dans le temps, j'en ai 40, puis je m'en suis remis pas si pire, je pense.
40 jours dans le coma, puis c'était pas un coma provoqué ou c'était un coma là, qui vous est vraiment
tombé? Non, moi je me suis... J'ai tombé en snowboard, là. J'étais un peu un casse-cou en snowboard dans le temps, puis les casques, c'était pas à la mode dans le temps-là.
Uh-huh.
Je me suis frappé la tête fort sur le sol, fait que
et
j'ai perdu conscience une quarantaine de jours.
Et est-ce qu'on est arrivé à un moment où on s'est dit, vos proches, bon, est-ce que les médecins ont dit à vos proches, il faudrait peut-être le débrancher, il n'y a plus rien qu'on peut faire, ce qu'on a dit à Suzanne?
Ben, en réalité, moi, j'habitais en Alberta, j'étais un Québécois, mais j'étais parti entre deux sessions faire du travail au Lac-Louise. Puis c'est arrivé là-bas, mes parents se sont fait appeler durant la nuit pour leur dire, votre fils est en coma, il a besoin de vous. Fait que les autres sont descendus en Alberta me chercher, puis ils se sont fait dire que leur fils se ferait peut-être placer pour le restant de ses jours parce que je serais légume, si on veut, ou je serais inapte à travailler, inapte à faire tout.
Qu'est-ce qui vous a sorti du coma, Benoît?
Je sais pas du tout, honnêtement. Dans le coma, on dort, c'est comme un trou noir, si on veut, et on voit pas, on fait rien. Ma mère me frottait les pieds pour me réchauffer. Il m'avait mis sur un lit glacé pour me refroidir, baisser la température de mon corps. Fait que ma mère me frottait les pieds pour me réchauffer. J'ai pas connaissance de ça. Moi, je me suis réveillé. J'étais arrivé le 15 avril 1999 au Lac-Louis dans l'Alberta. Puis je me suis réveillé à Montréal. J'étais rendu à l'hôpital général de Montréal à mi-juin, peut-être. Je me suis réveillé. Puis j'agissais comme un enfant. Je lançais tous les objets que je pouvais trouver. Je criais. Fait que je rappelle à manger, je rappelle à faire tout, si on veut.
Oui, il paraît que les gens qui sortent du coma, j'en ai interviewé quelques-uns au fil des ans, il paraît que c'est difficile parfois de revenir comme on était avant, qu'il se passe quelque chose.
Je m'excuse, je vous traite, j'ai une petite appel 40.
Oui, mais écoutez, Benoît...
On va ignorer ça.
Ouais.
Mais non, il faut pas que je fasse de la réadaptation pendant 2 ans. Là. Tout, m'habiller, prendre, me laver, manger, tout.
C'est un état qu'on connaît pas, en tout cas, le coma. Non, on a très peu d'informations là-dessus.
Absolument pas.
Ouais. Ben, merci de votre appel.
C'est ça me fait plaisir.
Merci beaucoup, Benoît. C'est incroyable quand même, ce genre de situation. Puis on est mitigé par rapport à ça. Êtes-vous d'accord? On ne sait pas trop quoi penser. On se dit, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui est dans le coma pendant des mois, des années parfois. Puis c'est arrivé des histoires. Si vous faites coma là, sur Google, vous allez voir, il y a des histoires incroyables. Je me souviens d'une dame en Europe qui s'était réveillée après plus de 20 ans dans le coma. Son mari, ses enfants, son mari s'était refait une vie. Il y avait eu d'autres enfants. Soudainement, sa femme se réveille. Hey, wow, ça t'arrive, puis c'est pas simple, hein. Mais c'est pour ça qu'on a toujours une espèce d'arrière-pensée à se dire, c'est pas évident quand il s'agit de débrancher quelqu'un, de se dire d'un coup que cette personne-là revienne. Mais ça, si on le savait, si on était capable de contrôler tout ça. C'est intéressant parce que Benoît disait, qu'est-ce qui fait qu'il est revenu? Dans le cas de Suzanne Desjardins, elle disait que c'est son frère qui a parlé tellement fort qu'il l'a comme sorti de sa torpeur, de son espèce d'état comateux. Dans le cas de Benoît, il dit « Ma mère me frottait les pieds pour me ramener. » Puis c'est drôle parce que l'année dernière, je pense que je vous l'ai raconté, j'ai perdu 3 personnes très proches de moi. Et pour le décès d'une en particulier, on était à ses côtés, à son chevet. Et il y avait quelqu'un qui était très spirituel, qui faisait de l'accompagnement de fin de vie. Et on touchait beaucoup les jambes et les pieds de mon ami Daniel. Et quelqu'un nous a dit... Si vous voulez vraiment le laisser partir, il faudra arrêter de lui caresser les pieds parce que ça le maintient sur la terre. Bon, moi, je vous avoue, sur le coup, j'ai trouvé ça un peu ésotérique. Mais dans une situation comme celle-là, c'est une drôle de bulle quand tu es en fin de vie comme ça, quand tu accompagnes quelqu'un, un proche que tu aimes et tout. Tu es comme tiraillé entre le fait de ne pas le reconnaître, de se dire « Mon Dieu, c'est tellement plus lui, tu sens qu'il est à moitié plus là, puis en même temps, t'as envie qu'il reste quand même. » C'est délicat, je sais que vous avez vécu ça aussi, sans doute. Mais je sais pas si vous y croyez à ça, je sais pas s'il faut croire à ça. Est-ce que c'est vrai que tenir les pieds, caresser les pieds de quelqu'un, ça le maintient ici? Qu'est-ce qui fait qu'on reste sur la planète? T'sais, on pourrait parler de ça longuement. Mais nous allons aller à la pause là-dessus. Je trouvais juste ça fascinant de vous parler de cette histoire de dame qui est sortie de son coma. Alors voilà, on va enchaîner avec notre prochain sujet tout de suite après la pause. On va parler de malbouffe. Est-ce que vous vous cachez quand vous mangez des chips ou de la poutine? C'est ce que vous allez me dire tout de suite après la pause. Restez là, tout le monde.